Sous les pavés, la Ferrarock.
Interview d'artistes.
Paroles de musiciens. Histoire de groupe.
Arthur Hinge nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur le studio Ferrarock, toujours à Bourges. Arthur Hinge, bonsoir.
Bonsoir.
Je disais, juste avant de prendre l'antenne, qu'on a très froid cette année à Bourges, mais que tu avais déjà dû avoir froid ici même, puisque tu es un habitué du festival où on t'a vu.
Écoute,
déjà.
Écoute, je ne m'en rappelle pas. Peut-être j'étais bien couvert ou...
Sûrement que les artistes sont plus...
Je ne me rappelle plus du temps, si j'ai eu chaud ou froid. Mais...
Protégé. L'actualité d'Arthur Hinge, c'est le nouvel album sorti il y a quelques semaines, Baba Love, un album qui tranche avec les derniers sons, ou plutôt avec l'histoire d'Arthur Hinge. Changement d'équipe, changement de production, mais plus que ça, quoi. C'est aussi un changement dans la matière du son, un Arthur Hinge apaisé peut-être.
Ça te fait rire.
J'ai pas dit mûr, tu as vu.
Tomber de l'arbre de la branche, m'écraser par terre. Parce que je...
ouais.
Fruit bien mûr.
Libre, alors peut-être, on va
libre,
dire.
Libre, bah ouais, moi je suis depuis toujours en quête de liberté sonore. Et ce disque-là, j'ai arrêté de travailler avec les samples. Ça faisait longtemps qu'il y avait des samples, ouais, comme ça, que j'aime beaucoup le côté chaotique, la matière que ça amène, mais ça enferme un peu la musique. Donc j'avais envie d'une énergie très rock, très fluide et très électro aussi, mais avec des vieux synthés, avec des vieux sons.
Voilà, quoi, j'allais dire, c'est quand même une ambiance très organique, hein, sur
ouais,
cet album.
Ouais, c'est organique, ouais, ouais.
Avec des synthés vintage.
Voilà, ouais, j'avais... des vieux orgues. Il ouais. y avait l'orgue, l'Electra, l'orgue des Doors, qui a vraiment ce son, ça très très pur. Le Hammond, bien sûr, le Rhodes, les vieux synthés, le Mélotron, ouais, comme ça des instruments qui ont été très modernes à une époque, et puis maintenant qui sont quand même anciens, et qui sont des espèces de grosses boîtes magiques qui vibrent, c'est un peu faux, ça résonne, mais je sais pas, c'est ça. J'aime bien le son que ça fait, comment ça prend dans le corps, quoi.
J'ai eu l'impression sur cet album que c'était, ouais, je vais redire, un Arthur Hinge apaisé, libre, souriant, un peu loin finalement de l'image et des sons torturés à fleur de peau, qui font peut-être fausse image.
Torturé, faut pas exagérer, je pense que j'ai jamais fait de disque sur la torture, mais...
Non mais tu vois, plus dans la souffrance, plus dans la violence, et là c'est quand même assez lumineux de bout en bout, quoi.
Ouais, c'est vrai que...
Même la voix, pardon.
Dans cette époque très troublée, comme ça, de saturation, je dirais, où tout le monde est saturé, les gens tout d'un coup ont comme expression, ils ont plus que voter Front National pour exprimer leur colère et tout ça, donc ça, c'est quelque chose d'un peu triste. Du coup, j'ai l'impression que les artistes, justement, ils doivent amener de la lumière et de l'air et de la respiration, hein, que un concert, ça doit être un moment comme ça, en apesanteur, quoi. Tout d'un coup, on n'est plus dans cette... dans ce bulldozer social là, qui nous écrase. Au contraire, on est dans quelque chose qui est de l'inspiration, de la couleur, de l'idée, du son, du mouvement.
De la bouffée d'oxygène, de permettre aux gens de respirer.
De respirer. Moi, même moi, je peux me sentir aussi comprimé dans ma vie normale, parisienne, ou là, en l'occurrence, de banlieusard, parce que je suis banlieusard. Et puis, tout d'un coup, sur scène, je me sens, ouah, je respire, c'est mon corps qui se détend, puis on partage de l'énergie, donc c'est pour ça que je fais une musique qui est plus rock, qui est plus groove, parce que j'ai envie d'aller directement à ça, quoi. Et aussi, parfois, secouer un peu tout le monde avec un son très très fort, pour après balancer un morceau psychédélique bien trippant, où tout le monde est bien détendu, comme là, en l'occurrence, c'est un morceau assez sexuel qui s'appelle Prendre Corps. Et avant, on fait un morceau très électro-rock, et j'aime bien ce moment où tout d'un coup, on balance un truc vraiment très Pink Floyd et tout ça, parce que les gens sont prêts à le recevoir.
Tu parles du groove, il me semble quand même que c'est peut-être le point commun que je verrais sur tout le parcours artistique jusqu'à présent. Sens du groove, ce plaisir aussi du groove, de le torturer, enfin, je vais pas reprendre torturer. Non, mais de le malaxer un peu selon tes envies, mais avec toujours quoi, ce truc qui donne un mouvement du corps, justement, le corps qui est très présent dans cet album au final.
Bah oui, le corps, Bah, on est tous noirs, il faut qu'on soit de toutes les couleurs aujourd'hui. Il faut qu'on soit noir, blanc, et puis dans la musique noire, noire américaine, sur le hip-hop, le funk, il y a cette pulsation qui fait vraiment du bien, quoi. C'est la pulsation, hein. c'est le truc qui rebondit, c'est pas le truc carré, quoi. C'est pas la Wehrmacht qui débarque en Bavière, quoi. Ça respire, et puis moi j'aime bien qu'il y ait quand même une impulsion de la musique noire comme ça, qu'on sente, même si on fait pas de la musique noire, parce que malheureusement on n'est pas noir, on est de toutes les couleurs.
Alors, pas de la musique noire, parce que c'est en français aussi, avec un attachement au texte, en particulier sur cet album, et avec le texte, la voix, qu'on redécouvre encore une fois. Ça a été une autre manière de travailler, ça a été une plus grande liberté, ça a été que t'as plus rien à prouver et que donc tu oses tout, ça a été quoi ?
Ben, j'aimerais bien en arriver là, j'espère que j'arriverai un jour. En fait, mon but pour l'instant, c'est de pas faire d'efforts, en fait, parce que je remarque que quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux chanter, quand tu veux délivrer un message, ça, t'es fatalement tendu, en fait. Et quand t'es tendu, le son peut pas circuler à travers toi. Et je remarque que pour moi, tous les grands musiciens, les grands chanteurs, depuis que je suis petit, que j'aime, qui me touchent, par exemple, comme Jim Morrison. Bon, Jim Morrison, à la fois, c'était quelqu'un de très très tendu dans son être, très tourmenté. En même temps, quand il chantait, il avait son idole, c'était Frank Sinatra. Donc il avait cette espèce de détente qui fait que sa voix résonne comme ça. Du coup, moi, à mon petit niveau, j'essaye d'atteindre un niveau où tu fais pas d'efforts, où le son passe à travers toi. Et justement, c'est les moments où tu sors de l'idée qu'il faut séduire ou prouver quelque chose. Et t'es juste toi-même, t'en as plus rien à foutre de rien, en fait. T'en as rien à foutre de rien. Et quand tu atteins ce moment-là, c'est vraiment un moment nourrissant et où il y a une forme de liberté, parce que tu t'en fous de séduire les gens, de plaire, de les amener quelque part. T'es juste un truc qui vibre et les autres, ils vibrent en résonance avec toi, tu vois. Et puis, il n'y a plus de questions à se poser, c'est chouette.
Il y a beaucoup de gens qui décrivent en tant que public, et donc parce qu'en général, ce sont les artistes ont le plus de mal à le décrire eux-mêmes, qui décrivent une espèce de sensation quand ils regardent un artiste et où, quelque part, la voix et l'aura transcende juste le corps de la personne. Souvent, on dit ça d'artistes blancs, justement, tu parlais de musique noire, qui se retrouvent à avoir une aura d'artistes noirs et souvent une voix, que ce soit une femme ou un homme. Est-ce que tu étais en train de décrire ce genre de choses, ou tu cherches une espèce de transe et d'abandon, où ton seul objectif, bah, c'est de transmettre la vibration? Alors, ça devient un peu mystico, blabla, mais c'est, bah, je pense que fait, c'est effectivement quelque chose que les artistes recherchent.
C'est forcément mystique. Tout artiste est forcément mystique, de toute manière, quand t'écoutes...
Malheureusement, pas tous, mais la qualité...
Les bons, je pense, même des gens vraiment très athées, qui n'ont rien à foutre du spirituel, ça, comme Gainsbourg ou des trucs comme ça, des fois, quand tu l'écoutes, ils parlent de possession, on parle tous de la même chose, parce que c'est... Donc, voilà, on est tous des noirs mystiques qui s'ignorent. ouais, c'est ça, c'est lâcher prise.
C'est cette recherche que t'arrives à atteindre ce stade de plus en plus facilement, peut-être, par exemple, par rapport à tes tout débuts, où t'avais, au-delà de la pression familiale, de réussir, et, etc.
Ouais, bah
c'est cette pratique et le nombre d'albums maintenant qu'on ne compte plus. Est-ce que t'as l'impression, justement, d'avoir... tu disais presque, hein, tu disais « je m'en fous ».
En fait, ouais, j'ai une technique à la Hollande. C'est-à-dire que même si tu fais une grande salle, c'est impressionnant, tu vois, c'est toujours impressionnant de rentrer sur une salle devant... Bon, là, à Bourges, demain, il y aura 6000 personnes, tu vois. Ce soir, il y aura 300 personnes, mais c'est toujours impressionnant, ces moments-là. Et puis, c'est des moments où tu peux te dire, tout d'un coup, bon, tu sens que tu as beaucoup plus d'énergie que normal, c'est fatal, tu vois. Mais en même temps, tu peux dire, c'est un moment qui est extraordinairement banal ou banalement extraordinaire, tu vois, dans une forme de... Voilà, Hollande, je suis normal, tu vois. Le mec, il essaye de...
J'ai du mal à y croire, parce que...
Parce que c'est le moyen de faire descendre le stress. Parce que si t'arrives, t'es trop stressé, t'es trop tendu. Comme avant, c'est vrai que j'étais extrêmement tendu, j'avais vraiment peur. Donc t'es comprimé, et puis là, le son, il peut pas résonner à travers toi, quoi.
Justement, on a l'impression à l'écoute de cet album qu'il n'y avait pas de stress, qu'il y avait une certaine plénitude, un lâcher-prise, justement. et qu'il a été fait en parfaite harmonie. C'était le cas ? Non, mais c'est vrai qu'on a presque l'impression que ça a été fait, retiré, tu vois, sans les bruits de la ville.
C'était un petit studio très rock, monté par un des producteurs de Nirvana, qui avait un où il y a surtout des groupes anglais et allemands qui jouent. Maintenant, ça commence à s'ouvrir un peu. C'est un super studio. C'était effectivement au milieu des vaches et des grenouilles. Ouais. Et après, quand tu fais un disque, moi, j'ai beaucoup travaillé justement pour être relax, parce que ça fait très peur de faire un disque quoi qu'il arrive, tu vois. Et puis, et moi, quand j'écoute, quand j'entends les trucs, j'entends encore la peur. Et pour moi, il y a encore trop de peur dedans.
C'est drôle parce que là c'est un disque qui est souvent sensuel, groove, et c'est assez loin encore une fois de l'image que je pouvais avoir. Même en réécoutant les premiers albums d'Arthur Age, j'aurais pas misé une cacahuète ou une chips sur l'idée de te sentir un jour te laisser aller à un univers très sensuel, et là c'est le cas souvent. Ça c'est quoi? C'est oui... encore une fois, un travail sur soi, ou plutôt le fait de dire voilà, je n'ai plus rien à prouver, je sais faire, j'ai expérimenté plein de choses, et donc mon ultime liberté, c'est celle-là, de laisser aller les textes, de laisser aller la voix, de se permettre parfois des mélodies. Tu disais rock'n'roll, il y a des mélodies effectivement très rock, d'autres qui sont quasi minimalistes, enfin... Je veux dire, ouais. C'est vraiment un album très dense au final.
Ouais. Merde, j'ai oublié.
Ça fait beaucoup de questions, mais c'est la question la plus longue du monde. En fait, je fais un concours. Alors, en trois mots, c'est est-ce que cet album-là, c'est la fin, c'est l'arrivée, quoi. C'est une route qui arrive sur une clairière et il t'a fallu passer par plein de montagnes pour arriver
non,
là.
Non, parce que c'est horrible d'être artiste, et t'es toujours hyper frustré quoi qu'il arrive.
Il y a plein de choses d'horribles.
Moi, en tout cas, je suis hyper frustré, et puis j'ai toujours l'impression que je rate les choses et que je peux faire mieux. C'est ce qui d'ailleurs me pousse toujours devant. Mais j'ai jamais l'impression d'avoir réussi un truc.
Alors, parfois, l'enregistrement d'un album peut être un peu douloureux. Là, on n'a pas le cas de ça, par exemple.
Non, il y a des moments de grand plaisir. C'est vrai que des fois, je regrette que les gens ils peuvent pas rentrer dans le studio, parce que quand la musique elle naît comme ça, tu vois, que t'as les premiers trucs, que t'as des flashs d'excitation comme ça, de joie, où tu vois tout le potentiel du morceau, puis après tu le repères, c'est un processus assez long quand même. Mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien que tout le monde soit là, et t'as des magnifiques enceintes, tu vois, sublimes, tu peux écouter, il est tard, t'écoutes le son à fond la caisse, t'es vraiment dans le son, tu l'écoutes dans les meilleures conditions imaginables. Et alors, voilà, j'aimerais qu'un album ne soit jamais fini et que les gens puissent l'écouter au moment où on est en train de le faire et au moment où tout est possible.
Il y a des gens qui sont devenus fous pour ça, genre Brian Wilson qui disait qu'être limité par les capacités techniques pour transcrire et coucher la musique qu'il avait dans sa tête. Est-ce que, parce que voilà, la beauté du son dans un studio n'est jamais vraiment la même que tu trouveras nulle part ailleurs. Est-ce que tu as ce genre de limite encore qui te colle une pression?
Brian Wilson, il faut dire qu'il était resté quelques années sous LSD quand même, parce qu'il a laissé quelques traces.
Il avait un médecin personnel qui...
Mais c'est vrai que c'était un peu un génie, puis il y a des... Good Vibration, c'est fou, parce qu'en fait, c'est plusieurs tentatives d'arrangement, ils n'arrivaient vraiment pas du tout à trouver l'arrangement, et tout d'un coup, il a collé différents arrangements qui n'avaient rien à voir ensemble, et tout le monde lui a dit, t'es fou, c'est un patchwork, ça ressemble à rien, c'est pas une chanson. Ça marchera jamais, ça fait un tube magnifique, la chanson est magnifique. Et quand on sait, qu'on connaît comme ça les... Donc c'est vrai qu'on a envie d'explorer le son tout le temps, être tout le temps à l'intérieur du son. Maintenant c'est plus possible, parce que vu que les disques ne se vendent plus, on n'a plus d'argent pour rester en studio.
Oui, mais les gens continuent à écouter de la musique quand même.
Un mot sur...
Ouais, mais ils n'achètent plus de disques, donc on...
Sur les invités... Alors, intéressant et illustre qu'il y a sur cet album, je me demandais quel était le point commun. J'en ai pas trouvé, et je me suis souvenu d'un...
Il y a un point commun, c'est...
La voix.
C'est des voix très originales, oui. Quoi, très, beaucoup de caractère.
Voilà, la voix, effectivement. Et je me suis souvenu d'un featuring que toi, tu avais fait sur un album d'un Lyonnais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kent.
Ouais.
Et avec.
Betsy Party.
Voilà, une super jolie reprise que vous aviez fait ensemble de son premier
groupe.
Je m'avais
vachement ému parce que quand j'avais 12-13 ans, j'écoutais du punk. Ouais. Et le seul groupe français que j'écoutais, c'était Star Shooter. Le premier disque, il est génial.
Et donc voilà, et je me suis dit que peut-être au final, quelle que soit la voix, le timbre, la proximité, ces invités-là, ils répondaient avant tout à de l'humain, quoi. Que c'était aussi des gens que tu aimais. Et ça définissait bien cet album.
Bah ouais, ouais, bien sûr. Et puis, je dirais des gens ouais, qui ont une forme de liberté, qui sont très originaux, que ce soit Jean-Louis Trintignant ou Sir William, s'ils n'ont rien à voir, il y en a. Il fait du hip-hop, du slam de New York. Il peut être très très énervé. Jean-Louis, il est très calme. Mais Isia aussi. Peut-être qu'ils ont pas mal de choses en commun. C'est peut-être une forme de violence, mais rentrée aussi. Parce que Trintignant, il peut avoir un côté très très aussi acéré, tu vois. Et c'est quelqu'un, tu peux pas dire que c'est quelqu'un de. Il peut être très gentil, mais il a un humour vraiment démoniaque. Sir William, il est très gentil aussi, mais. Je voulais une voix de hip-hop, quand on a enregistré la chanson, il s'est jeté sur le micro, tu vois, avec une espèce de rage complètement dingue. Isia, c'est pareil, Isia, c'est une espèce de torrent de lave. Ils ont quelque chose en commun, ouais, c'est une forme d'agressivité rentrée, comme moi d'ailleurs.
Et de générosité aussi, c'est-à-dire d'engagement physique dans ce qu'ils font, non ?
Ouais, complètement, ouais. Mmh. Ouais.
On va te libérer un ultime mot.
Libérer définitivement.
On va te libérer pour aller sur scène.
Sexuellement aussi, spirituellement.
Les années
tout
70.
Ce que tu veux, voilà. Ouais, on est en plein dans les années 70.
C'est Ferra Rock, quoi, ça rigole pas du tout.
Du coup, j'en ai perdu ma question, hein. Incroyable. Mais vrai.
Moi, j'aurais voulu juste une petite parenthèse sur le projet concernant Lassa. C'est une artiste qui a été trop méconnue, on va dire. Et ça ne me surprend pas que tu te retrouves à travailler sur un projet comme ça.
Bah, Lassa, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était très inspirante. On était très proches tous les deux. On discutait beaucoup de musique, d'art, de tout. Et du coup, on a fait une belle fête à Montréal en janvier. Et là, c'est un peu le second tome de cette histoire. Il y a ses amis, c'est très chaud. Et puis, c'est aussi se rappeler que, à part le fait qu'elle était très touchante et qu'elle avait une voix vraiment magnifique, c'est aussi qu'elle est. En fait, on se rend compte qu'elle a écrit des standards. Ces chansons, quand tu les chantes mélodiquement, harmoniquement, ça pourrait être des chansons de Johnny Cash, de Leonard Cohen. Il y a vraiment cette même qualité-là, tu vois. Je pense que ça va ressortir avec le temps. Donc, c'est des chansons qui coulent, qui sont fluides et qui sont, ouais, juste des chansons merveilleuses, quoi.
Merci.
Merci beaucoup.
Retrouvez d'autres interviews sur ferrarock.org.